Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur.
Bien-aimés en Christ, nous venons de passer une semaine avec le Seigneur. Permettez avant tout propos de rendre grâce à Dieu qui a été avec chacun de nous durant les 7 derniers jours. Alors, il nous a permis de vivre par sa grâce et dans sa merveilleuse grâce. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père également, a gardé en chacun de nous son souffle de vie. Mieux encore, en ce merveilleux jour du Seigneur, il nous a réveillés en pleine forme. C'est pour cela que l'autre Laurent et moi sont dans la joie de vous savoir nombreux à suivre cette émission ici à Lomé et ailleurs de par le monde. Que le nom de notre Dieu soit loué. Recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Au menu de l'émission de ce jour, nous étudierons la chanson qui a pour titre « Ouvre le ciel ». Qui l'a composé, nous le verrons tout à l'heure avec l'autre Laurent. Mais ce que nous pouvons vous dire par rapport à cette chanson, la structure du chant, je dirais que le chant se compose d'un refrain et de deux strophes. Alors que le refrain est formé de deux vers, les deux strophes sont quant à elles formées de quatre vers. Le chant, nous le classerons dans la rubrique chant de prière, et le chant que vous allez écouter tout au long de cette émission est une interprétation de Sylvain Frémont et avec son groupe Louange Vivante. Il est en français. Chères auditrices et auditeurs, avec plaisir, je vous invite dès à présent à écouter « Ouvre le ciel » et on se retrouve juste après pour les paroles de cette chanson et les différents commentaires. Nous vous laissons dès à présent écouter « Ouvre le ciel » avec Sylvain Frémont.
Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur. Pour nos yeux qui s'ouvrent, Seigneur. Merci, Seigneur, d'ouvrir les yeux de ton peuple, sans qu'il puisse voir comme tu vois, Seigneur. Oh, donne à ton peuple, Seigneur, donne à ton épouse, ton regard, ta vision, Seigneur.
Ouvre le ciel, voilà, le cantique que nous allons étudier dans l'émission de ce jour. Je l'ai dit tantôt, un chant de prière, un chant qui nous conduit dans la prière, ça nous amène à prier le Seigneur, on va voir ce que c'est, mais en attendant, on va permettre à l'autre Laurent de pouvoir nous donner les paroles du chant « Ouvre le ciel ». L'autre Laurent, d'abord, bonjour.
Oui, bonjour Olivier.
J'espère que tu as passé une très bonne semaine.
Oui, par la grâce de Dieu.
Oui, moi également, j'ai passé une très bonne semaine. Et là, l'autre « Ouvre le ciel », qu'est-ce qui est dit dans le chant?
Bon, là, la chanson commence par un refrain « Ouvre le ciel ». Que ta gloire brille sur notre nation. Ouvre le ciel et que ton royaume vienne maintenant. La première strophe nous dit ceci. Seigneur, tes promesses demeurent à jamais. Tu relèves ton peuple à genoux devant toi. Tu détournes ta colère du pays qui s'humilie, renonce à marcher dans ses propres voies. Deuxième strophe, ta miséricorde nous sauve du jugement, viens nous délivrer de notre aveuglement, tu écoutes nos prières prononcées dans l'unité pour chasser notre ennemi de la contrée.
L'autre Laurent, merci pour la lecture, c'est bon. Ouvre le ciel. Qui a composé ce chant? J'ai dit tout à l'heure dans l'introduction que tu nous en parleras. Je ne sais pas qui a composé ce chant et que sait-on de lui.
D'accord. Bon, la chanson est l'œuvre de Rolf Schneider. Rolf Schneider est un Suisse d'origine française et avec son épouse Maryse. On rejoint le mouvement Jeunesse en Mission en 1975, d'accord? Et Rolf, au sein du mouvement, est responsable du département de musique à Yverdon. Il se rend régulièrement dans de nombreux pays, dont l'Afrique francophone, pour enseigner. Travaille principalement dans trois domaines, la louange, l'évangélisation et la formation. Il sert aussi son église locale. Il a également fondé le groupe Visa, qui se produit dans des écoles, dans des prisons, dans des églises, et même sur des places publiques, en Afrique, en France, en Belgique, au Canada, et même en Nouvelle-Calédonie. Il est un excellent parolier et compositeur. Il a écrit plus d'une centaine de chants, notamment « Ton nom »,« Dans le lieu saint »,« Parfum de louange », ces chansons qui sont traduites dans diverses autres langues. Le ministère de Rolf Schneider se transmet par la composition, en jouant de la guitare, en chantant ou en apportant des enseignements, tandis que Maryse, son épouse, exerce un ministère d'enseignement, d'écoute et de prière. Tous deux sont des parents de deux jeunes adultes, Valérie et Alexandra, et la famille vit en Suisse. Voilà ce que nous pourrons retenir de Rolf Schneider, de son épouse et du mouvement Jeunesse en Mission.
Ouais, très bien. L'autre Laurent, un mot, bon, une ville a retenu mon attention quand tu présentais sa biographie, Yverdon, qui se trouve en Suisse, hein, c'est ça, hein, Yverdon. Je me rappelle cette ville-là. Il y avait, c'était Jean Schwab.
Jean Schwab, oui, un intercesseur.
Ce monsieur a vraiment marqué la Suisse. Hein.
Bien sûr. Et là, parallèlement à lui, il y a un autre en Angleterre, Rhys Owen, C'est des gens qui avaient prié et qui ont détourné l'assaut des nazis et autres là. Le combat n'était pas que physique et militaire. Non. Rhys Owens en Angleterre intercédait et celui-ci en Suisse aussi intercédait et ils ont combattu l'armée nazie également. Parce que beaucoup ne le savent pas, Hitler il pratiquait des choses occultes, il était profondément dans les choses occultes, donc c'était pas que des chars, le blitzkrieg, la guerre éclair, non, il y avait l'aspect occulte et donc
Ils ont vite saisi, ils ont vite compris
le motif spirituel. Jean Schwab, j'ai beaucoup lu de ses œuvres.
C'est traité à l'époque. Schwab, je ne sais pas si on en a encore, mais...
J'en trouve de temps en temps, quand je fouille mes effets.
Oui, mais est-ce que c'est encore comme auparavant,
à portée de main? Non, je ne pense pas.
Oui, c'est vraiment dommage. Jean Schwab a marqué l'époque. En tout cas, il a marqué notre début de marche chrétienne.
Dans la foi.
Dans la foi. Vraiment, Jean Schwab... Waouh, c'est un monsieur, waouh, que Dieu a vraiment béni. Donc, quand j'ai entendu le nom Yverdon, son nom m'est revenu en même temps à l'esprit. Il a vraiment impacté le monde. Bien, on va commencer avec le commentaire et on va commencer avec le refrain. Permettez qu'on réécoute le chant avec « Ouvre le ciel » en commençant par le refrain. On y va. Le chant commence, je vais le dire comme ça, le chant commence par une supplication particulière. Ouvre le ciel. Pourquoi cette supplication? Ouvre le ciel. Pourquoi demande-t-il cela?
Bien, d'accord. Il faut comprendre que ici, avec cette phrase introductive, ouvre le ciel, c'est pour dire que le ciel est fermé. Et toute la chanson est structurée autour de deux chroniques que nous connaissons tous, dont on cite les textes, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, ainsi de suite. Je vais en parler un peu plus loin. Mais ici, quand le ciel s'ouvre, c'est que Dieu intervient dans le monde des hommes. D'accord? Et cela devient de plus en plus fréquent. Depuis que Jésus a donné sa vie en sacrifice à la croix, Dieu a maintenant le droit légal d'intervenir dans l'affaire de l'humanité. Parce que le prix de l'égarement, de la chute, de la déchéance d'Adam a été payé. D'accord? Donc quand Dieu ouvre le ciel, cela voudrait dire qu'une saison commence dans la vie d'un individu ou d'une communauté, par exemple. Quand je prends le cas du prophète Ézéchiel, c'était au moment de son appel au ministère prophétique. Vous savez, Ézéchiel était à Babylone avec ses compatriotes, d'accord? Et il était au bord du fleuve Kébar, et quand Dieu est intervenu. Là, je lis Ézéchiel chapitre 1, partie de verset 1. « La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent. Et j'eus des visions divines. Je regardais, voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air poli sortant du milieu du feu. » Voilà, donc là, ça c'est Ézéchiel. Lorsque le Seigneur était au Jourdain, au moment de son baptême, Matthieu chapitre 3, verset 16, il est dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Quand on prend le texte de Luc, lui dira, « Il était en train de prier. » et voici les cieux s'ouvrir. Donc j'ai dit, chaque fois que les cieux s'ouvrent, c'est que Dieu intervient. Dans le cas d'Ézéchiel, Dieu va intervenir, les chérubins vont se manifester, après on verra Dieu s'asseoir sur son trône. D'accord? Ici, voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Même chose à la Pentecôte. Actes chapitre 2, et là il a dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai lu Ézéchiel, il a dit quoi? Je regardais, voici, vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu. D'accord? Une gerbe de feu qui s'éclate dans tous les sens, vous comprenez maintenant, langue de feu. D'accord? Un vent impétueux qui remplit toute la maison, ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc là, nous voyons que quand les cieux s'ouvrent, c'est que Dieu intervient. Et là, dans le texte qui sert de base à ce que nous sommes en train de dire, Dieu dit, quand mon peuple s'humilie, il a cité les conditions, il dit, je l'exaucerai des cieux. Ça veut dire, j'interviendrai. D'accord? Daniel a prié et le ciel s'est ouvert et l'ange est venu lui parler. Donc, vous comprenez que nous vivons dans un monde qui n'est pas que physique. Ce monde physique-là, c'est pour nos yeux, nos cinq sens. Mais le second monde, c'est le monde de Dieu. Et dans ce monde-là, il y a un aspect où vous allez trouver le diable. Dans le monde astral, vous avez les démons, les puissants des ténèbres et tout le reste. Mais dans le monde de Dieu, là où Dieu est, vous avez là la présence de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui permet aux chrétiens d'accéder aux réalités du monde spirituel, le royaume de Dieu.
Et c'est dans ce monde-là, c'est à ce monde-là, que l'auteur demande. Il demande à Dieu, sûr, il veut qu'on ait accès à ce monde, ou bien que ce monde vienne dans...
Donc là, tout à l'heure, tu as parlé de supplication, et pourquoi? Parce qu'une supplication, c'est une prière qui est faite d'une façon humble, touchante, pressante, avec instance et soumission. D'accord? Quand on est en train de faire une supplication, le cœur de l'intercesseur n'est pas ravagé par la colère, le désir de vengeance ou de propre justice. Le cœur est brisé par la misère humaine, la méchanceté, mais il voit dans ces hommes méchants des victimes d'une force supérieure. Donc, l'intercession, c'est une supplication, ce n'est pas un ordre que l'on oserait donner à Dieu. Ça, il faut que nous le comprenions. Quand on intercède, nous ne donnons pas des ordres à Dieu. Dieu est roi. Vous ne pouvez pas lui donner des ordres. D'accord? Et là, c'est important de le comprendre. Quand vous prenez par exemple quelqu'un comme Jérémie, c'est un véritable intercesseur. Il passait pratiquement son temps à pleurer sur l'état d'Israël parce que c'était le prophète qui a reçu la confirmation de la déportation prochaine du reste du peuple. Parce que Israël est déjà parti, enlevé par les Assyriens. D'accord? Maintenant, Judas va suivre. Lui sera enlevé par les Chaldéens, les Babyloniens. Donc, c'est important de comprendre cela. Et dans la Bible, il y a plein de gens qui ont intercédé. Abraham a intercédé pour Lot. Le Seigneur Jésus a intercédé pour la foule et par ricochet pour nous. Étienne a intercédé en faveur de ceux qui le persécutaient. D'accord? Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit est un intercesseur. Parce que dans Romains chapitre 8, verset 26, il dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, dans notre infirmité. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et à ce niveau, c'est pas le parler en langue. Le soupir inexprimable, c'est un niveau plus élevé, plus profond, je veux dire. Que le parler en langue, c'est l'articulation. Les soupirs inexprimables, c'est pas toi qui le déclenche, ça vient de l'intérieur. D'accord? On n'a pas le temps pour que je puisse m'étendre là-dessus. Et dans Romains chapitre 8, 34, il dit, qui condamnera les élus? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, le Saint-Esprit intercède pour nous, Jésus intercède pour nous. Donc, si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez intercéder pour les perdus. Vous n'allez pas vouloir leur mort. Vous allez plutôt intercéder. Vous allez vous laisser envahir par la compassion. Frère, si Dieu vous ouvre les yeux pour connaître la misère humaine, vous allez pleurer sur notre monde. Même pour le plus terrible de vos adversaires, de vos ennemis, si Dieu vous ouvre les yeux pour voir là où vont les gens sans Christ,
vous n'oserez pas un seul instant
désirer
que quelqu'un aille dans ce lieu. D'accord? Dans 1 Jean, il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, dont vous voyez, Jésus intercède auprès du Père. Les saints intercèdent en faveur des uns, des autres, mais également en faveur de leur lieu de résidence. Vous vous souvenez quand les enfants d'Israël étaient amenés en captivité, Dieu leur dit, intercédez pour la ville. Quoi? Avec les idoles de Babylone là? Oui, intercédez pour eux. Priez pour eux. Parce que votre bonheur dépend du bonheur du peuple. Donc vous voyez un peu, vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a aucune raison de vouloir du mal à quelqu'un parce qu'il n'est pas comme nous. Si ceux qui étaient dans la foi avant nous avaient prié contre nous, nous ne serions pas convertis. Donc là, il est important de comprendre, le Saint-Esprit intercède, Jésus intercède, et nous devons intercéder parce que l'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, par l'Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à intercéder. Quand on prie par l'Esprit, ça se présente sous 2 angles. Fondamentalement, c'est le parler en langue. Ensuite, vous serez en train de prier et l'Esprit oriente les requêtes. Et quand vous intercédez pour quelqu'un, vous ne faites pas vos prières. Vous faites les prières de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dépose les requêtes sur votre cœur et vous priez. Mmh. Hein, c'est comme ça se passe.
Très bien.
Donc, là, si nous comprenons ces choses, nous comprenons pourquoi l'auteur, maintenant, demande à Dieu d'ouvrir le ciel afin que sa gloire brille sur leur nation. Vous voyez un peu? Vous pouvez pas dire, oui, on vit dans une nation, les gens sont impies, les gens sont ceci, oui. Mais si votre plainte change quoi? Les débats changent quoi? Hein, les injures changent quoi? La véritable valeur d'un homme, c'est devant le trône de grâce. Nous allons là et nous plaidons. Et quand les changements se produisent, vous allez voir de vos yeux les résultats que vous avez obtenus dans le monde spirituel. Vous savez, souvent, les intercesseurs ne se pavanent pas comme ça pour dire aux gens, « Vous savez, j'intercède, et attention, j'ai intercédé pour vous. Faut arrêter de pécher. » Non, c'est des gens qui œuvrent avec Dieu, qui le font dans le silence, tu ne sauras même pas. Et quand Dieu leur révèle des choses, ils sont tenus par le secret. C'est pas tout que Dieu nous révèle qu'on vient dire aux gens. D'accord?
Très bien. Voilà, on va continuer avec le couplet 1 ou bien la strophe 1, mais je vous laisse écouter la chanson jusqu'à ce niveau. Seigneur, tes promesses demeurent à jamais. Tu relèves ton peuple à genoux devant toi. Tu détournes ta colère du pays qui s'humilie et renonce à marcher dans ses propres voies. Les lyriques de la strophe 1 nous rappellent que Dieu tient fermement à ses promesses. Elles sont d'ailleurs oui et amen. Que faut-il en dire?
Oui, mais c'est vrai ce que tu as dit, mais il faut que les Écritures nous éclairent. Pourquoi? Okay. Aujourd'hui, nous pensons que les promesses de Dieu sont oui et amen.
Oui.
Mais les promesses se présentent sous 2 angles. Hein. Les promesses en bien comme les promesses en mal. Sous l'Ancienne Alliance, les gens savaient ça.
C'est sous la nouvelle alliance que nous pensons que,
C'est Dieu juste le côté positif des promesses. Donc, les promesses ont deux côtés.
C'est vrai. Mm-hmm. Il remplit toujours sa part en ce qui concerne les clauses de l'alliance. C'est l'homme qui se montre très souvent infidèle. Parce que c'est Dieu qui prend l'initiative et donc il se porte garant de l'accomplissement de la promesse qu'il a faite et de son engagement dans l'alliance. D'accord ? C'est pour cela que quand vous allez voir, quand Dieu veut intervenir, il y aura des conditions qu'il pose. Hein? Et si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure toujours fidèle parce qu'il est impossible que Dieu se réunisse lui-même. Par exemple, quand vous prenez l'alliance qu'il a faite avec Abraham, qu'est-ce que Abraham a fait pour mériter que Dieu vienne lui dire ce qu'il a dit ? C'est la grâce de Dieu. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament, la grâce a déjà commencé. Abraham ne méritait pas que Dieu l'appelle. Maintenant, quand il a fait la promesse, Dieu lui dit, quiconque te maudira sera maudit à son tour. Nous connaissons tous ce verset, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand on prend les textes les plus anciens, quand il parle de quiconque te maudira, là, le terme utilisé est différent de seconde maudit. Là. Parce que dans le premier, c'est Mekaleshka, et dans le second, c'est Ahor. Et le premier veut dire rendre léger quelque chose qui est lourd. Ça dit prendre à la légère ce qui est sacré, ce qui est important. Et le second maintenant c'est détruire complètement. En d'autres termes, je bénirai ceux qui te bénissent, mais si quelqu'un te manque de respect, je le détruirai totalement. Tu vois, parce que Abraham est sorti d'un milieu où il y a ces genres de choses. On me dit, oh, quel Dieu t'a parlé, et ainsi de suite. Alors, vous comprenez pourquoi, quand Abimelech a pris la femme d'Abraham, quand Dieu est allé vers lui, il a dit, je vais te tuer. Je vais te tuer parce que j'ai fait une alliance avec cet homme. Je me suis porté garant. Si quelqu'un touche à sa vie, quelqu'un lui manque de respect à sa femme, là, je vais intervenir. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. C'est pour cela que, quand Élie, quand le père de Jean-Baptiste, Zacharie, quand il prophétisait sur son fils, il a dit clairement que Dieu a suscité un sauveur qui les délivre de leurs ennemis et que Dieu a ainsi manifesté sa miséricorde envers leurs ancêtres. Et il s'est souvenu de sa sainte alliance. Parce que c'est sur la base de cette alliance qu'il a promis le sauveur, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez aussi, Dieu a fait alliance avec David. Parce qu'il y a l'alliance avec Abraham. Plus tard, il y aura l'alliance avec le peuple d'Israël dans son entièreté, dans le désert, au pied du mont Horeb. Maintenant, promesse spéciale avec David, parce que là, ça concernait la royauté. Parce que entre lui et Saül, le premier roi d'Israël, c'est David qui a accepté que Dieu soit le roi. C'est-à-dire qu'il s'est placé sous l'autorité du roi des cieux, pour être le roi. Alors que Saül ne voulait pas. Si Dieu vous aide à accéder à un poste de responsabilité, quand tu seras là, si tu oublies Dieu, ta descente là, ce sera catastrophique. D'accord? Il y a beaucoup de gens, quand ils sont malheureux, tu vas les voir très sérieux avec Dieu, dès qu'ils émergent un peu là, ils oublient hier. Un chrétien ne doit pas vivre de cette façon. Donc, quand vous lisez Psaume 89, vous allez voir là-bas ce que Dieu a dit. Et le psalmiste, dans Psaume 89, s'est appuyé sur ce que Dieu a dit à David. Et ensuite, maintenant, il s'en prend à Dieu pour dire, Dieu, mais tu as manqué à ta parole. Tu n'as pas exaucé ce que tu as dit. Parce qu'il a dit quoi? Et Psaume 89, verset 38, et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton noir, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu vois? Parce qu'avant qu'il ne cite cela, il a dit à ce que Dieu avait dit à David. Tu as dit, je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Donc il a pris, c'est comme ça on prie en réalité, il a pris des versets pour parler à Dieu. Mais là où il s'est trompé, c'est parce que Dieu a dit par la suite, si ce fils abandonne ma loi, tu vois les conditions? S'il ne marche pas selon mes ordonnances, s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par les coups leurs iniquités. Mais, voilà maintenant ce que Dieu a dit, mais je ne violerai point, je ne lui retirerai point ma bonté, ainsi de suite. Donc, vous voyez que Dieu, en bien ou en mal, il a fait une promesse, il doit tenir parce que c'est une alliance et c'est important. Maintenant, tout à l'heure, je t'ai dit que ce texte est structuré autour de 2 Chroniques, chapitre 7. Hein.
Verset 14.
Voilà. Le temple a été dédicacé et Salomon a fait une prière assez fouillée, très détaillée.
et qui s'appuyait effectivement sur l'alliance de Dieu, et dans laquelle il dit, ah, tu sais, il se peut qu'il vienne à pécher contre toi, et il a dit plein de choses. Une prière vraiment inspirée. Maintenant, la nuit, maintenant, Dieu est venu. Hein, 2 Chroniques 7, verset 11, Salomon, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi, et qu'il a réussi dans tout ce qu'il s'est proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. D'accord, j'ai exaucé. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi le peuple, voilà vient le texte que nous citons souvent. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, et Élie connaissait ce texte-là, quand je fermerai les cieux, c'est sur cette base-là qu'il avait fermé les cieux, parce que le peuple a péché contre Dieu. Et s'il a pu fermer, il peut aussi ouvrir. D'accord? Donc, s'humilie, ça c'est un, prie, ça c'est deux, cherche ma face, ça c'est trois, se détourne de ses mauvaises voies. Si ces conditions ne sont pas réunies, Dieu n'exaucera pas. Frère, ce n'est pas parce qu'on s'est retrouvé en groupe, qu'on a cité 2 Chroniques 7, 14, et qu'on a fait une certaine prière, que Dieu nous exauce. Non, il faut revoir le test. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, tous ceux qui s'étaient rassemblés là, le nom de Dieu est invoqué sur eux. Ils sont nés de nouveau. Ils sont convertis. Ils sont disciples de Christ. Ils ne le sont pas. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Et maintenant, il dit, oui, s'humilie. Humilité, hein, quand on dit s'humilier devant Dieu, là, ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Hein. Prie et cherche ma face. Quand tu cherches la face de Dieu, tu le rencontres. Et donc, s'il se détourne de ses mauvaises voies, si après avoir fait cette belle prière, nous continuons comme nous visions avant de faire cette prière, qui se fout de qui, là? Ou on veut se moquer de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez cité 2 Chroniques 7, 14 que Dieu va vous exaucer. Non, il a posé les conditions. Et maintenant, quand il a fini de parler d'une manière générale, maintenant, il parle directement à Salomon. C'est important de comprendre ces choses. Il dit, maintenant, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père. Tu vois, donc, il y aura toujours ainsi. Il y aura toujours ainsi. Maintenant, quand il va finir de parler à Salomon, maintenant il parle du peuple aussi. Verset 19. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux, vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays. Parce que c'est mon pays. Frère, c'est l'église de Jésus. C'est pas ton église. Quoi que ce soit que nous sommes appelés à faire dans la maison de Dieu, n'oublions jamais d'où nous sommes venus. Il y a eu un jour où nous aussi nous avons confessé nos péchés. Nous avons reconnu que nous étions pécheurs. C'est par la grâce de Dieu que nous avons découvert ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc si nous sommes pasteurs aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes devenus des rois sur le peuple de Dieu. L'église appartient à Jésus-Christ. Donc c'est important. Dieu est fidèle à ses promesses en bien et en mal. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Quand on lit Deutéronome 6, verset 12 là, Moïse va dire la même chose. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi et il t'exterminera de dessous la terre. L'histoire est là pour nous rappeler. Quand vous lisez Deutéronome 28, là, la partie des malédictions, vous allez voir de façon structurée et chronologique les malédictions que Dieu a proférées. Et il a exécuté cela contre les enfants d'Israël. Et le summum des malédictions, c'est qu'ils seront dispersés. Et il les a dispersés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de lui. Josué aussi a mis le peuple en garde. Josué 24, verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Tu vois que, oui et amen, hein, c'est pour cela qu'il a dit au peuple, avant d'entrer sur la terre là, telle tribu va prononcer les bénédictions et tout le monde va dire amen. Telle autre va prononcer les malédictions, les autres vont dire amen. Donc quand, par exemple, il dit, maudit soit celui qui fait une image taillée et qui le place à un lieu secret, pour l'adorer bien entendu, et tout le peuple dira amen. Si dans ta maison tu as des statues et des statuettes d'un blanc ou des blancs ou d'une blanche, d'un individu quelconque, et au nom de la religion, tu penses que tu t'adresses à Dieu par ce moyen. Les gens ont déjà dit amen à ton sujet. Tu es sous une malédiction. Débarrasse-toi de ces idoles-là. C'est ce que l'Écriture dit. En Chronique 28, David, avant de mourir, a dit à Salomon. Ces choses sont importantes aujourd'hui parce que les gens nous disent, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Tu sais ce qui est arrivé à tonton Saül, le premier roi d'Israël? Connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais, si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Donc, il y a les deux aspects là des promesses de Dieu. Le positif et le négatif. Quand vous allez dans Jérémie, même chose. Il a dit au peuple, vous êtes, venez ici, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Et Dieu me leur a dit, allez à Silo. Vous connaissez Silo, l'histoire de Silo, là où j'apparaissais au peuple. Allez voir ce que j'ai fait de ce lieu. Donc ne venez pas vous rassembler dans ma maison, vous vivez dans le péché, vous ne voulez pas vous repentir. Donc Dieu n'a pas changé. Frère, autrefois, peut-être dans ton église, tu ne connais pas. Demande aux anciens de ton église. Quand les gens quittent leur maison, quand ils rentrent, ils savent que Dieu est ici. Certains même, personne ne leur prêche, eux-mêmes commencent par confesser leur péché. Mais aujourd'hui, les gens rentrent et sortent, rien ne se passe. Demande aux anciens, ils vont te parler des jours d'autrefois. Et il faut faire attention. Nous faisons des choses qui choquent les anges. Nous banalisons la parole de Dieu et nous pensons que Dieu est à notre service pour répondre à nos desiderata. Dernier élément pour cet aspect, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire. Mon âme ne prendra point plaisir en lui. Et l'auteur a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc c'est important de comprendre ces choses. Dieu veut bien nous bénir, mais il ne peut pas fermer les yeux sur le péché dans nos vies pour nous bénir. C'est impossible.
Présent, nous allons aborder la strophe 2. Je vais me faire le plaisir de relire les paroles de cette partie de la chanson. Ta miséricorde nous sauve du jugement. Viens nous délivrer de notre aveuglement. Tu écoutes nos prières prononcées dans l'unité pour chasser notre ennemi de la contrée. Alors, j'aime bien les paroles de la strophe 2 ou du couplet 2, car elles dépeignent l'état spirituel des chrétiens du 21e siècle. On est des aveugles spirituels et profondément religieux. Et il est dit quelque part, hein, viens nous délivrer de notre aveuglement. Et nous défendons beaucoup plus nos chapelles que la cause de Christ. Alors l'autre Laurent, Dieu ait pitié de nous. Hein.
Mais bien sûr.
On est vraiment aveugles spirituellement.
Oui.
Très aveugles spirituellement. Très.
De la majorité dans cet état. Il y a très peu qui sont éveillés.
Et ce qui fait qu'on n'a pas, cette ferveur-là pour Dieu.
Oui.
L'adoration est...
C'est un fardeau.
Oui, c'est devenu un fardeau. L'essentiel n'y est pas. Tout est lourd.
Tu vois, quand tu lis, quand tu relis tout le texte, tu vas voir la sincérité de l'auteur. Il dit ce qu'il y a. Mes amis, Dieu là, il nous connaît. Et il veut que nous venons nous dépouiller devant lui. Quand on prie, il faut apprendre à être transparent. Tu ne peux rien lui cacher. Donc si tu passes ton temps à faire semblant, tu perds ton temps. Si tu ne veux pas dire ce que tu as fait, tu as péché en détail. Tu vas confesser en détail. David, quand il a péché là, Psaume 51, vous allez voir, il est allé en détail. Il a reconnu ce qu'il a fait en détail. Tu as volé, ça c'est un péché à part. Tu as pris la femme de quelqu'un, c'est un autre péché.
Péché à part. Tu as menti,
c'est un autre péché. Donc il ne faut pas venir lui dire Dieu, et tout ce que j'ai fait, pardonne-moi.
Tu as fraudé, tu as manipulé les
chiffres. Tu as volé l'argent du pays, c'est notre argent. Toi tu l'as volé,
c'est un autre péché.
Et tu as donné la dîme avec ça. Là, dans ce cas de figure, ton argent, Dieu rejette. Toi-même, tu es rejeté.
Ce n'est pas accepté. La dîme n'est pas acceptée.
Non.
C'est de l'argent volé.
Volé. Dieu ne prend pas. C'est rentré dans les choses, mais Dieu n'approuve pas ces choses. Quand tu veux confesser maintenant ton péché, tu dois dire ce que tu as fait. Chez les hommes, là, à la justice, là, quand tu y vas, on fait les enquêtes et puis on t'expose ce que tu as fait. Et on te demande est-ce que tu plaides coupable ou non coupable. C'est pas ce qu'on fait chez les hommes. Pourquoi vous venez chez Dieu, vous pensez que ce sera autrement? Il faut reconnaître ce que tu as fait.
Et quand tu plaides coupable, la sanction est moindre.
Oui, parce que tu as reconnu.
Voilà, quand tu plaides non coupable et que tu es vraiment coupable, c'est grave.
Et c'est l'orgueil qui fait qu'on plaide non coupable, on ne veut pas perdre la face.
Ça me rappelle le monsieur, là, le pharisien.
Oui, celui qui est allé au temple.
Le pharisien a plaidé coupable et il est redescendu justifié.
Non,
c'est pas le publicain plutôt. Le publicain a plaidé coupable. Et il est redescendu justifié. Alors que le pharisien,
c'était le non coupable. Il a montré à Dieu, tu sais, je jeûne deux fois par semaine. Je paie toutes mes dîmes.
Oh là là.
Et il a cité les choses. Maintenant, son mal, il a fait ça. Et ce qui est dangereux pour lui, c'est que à un moment donné même, il a vu l'autre et il a fait une comparaison.
Il a fait une comparaison. Or, comparaison n'est pas raison.
Et que je ne suis pas comme... Tu vois, je vois un spécimen des gens là. Je ne suis pas comme... Il y a un spécimen devant moi là.
À côté de moi.
Et n'oubliez pas, il priait dans son cœur. Relisez le texte, c'est dans son cœur.
Alors que
dans le monde de l'esprit, les pensées du cœur sont aussi sonores que les paroles de notre bouche.
Waouh.
Donc, là...
Alors que l'autre se tapait la poitrine. Et lui, il priait. Il avait peu de mots. Les mots ne sont pas nombreux.
Ou bien je dis plutôt monsieur, madame, quand on veut prier là, il faut être sincère. Il faut dire à Dieu.
Ne pas mentir.
Vous n'allez rien gagner. Tu vois, si tu refuses de reconnaître ton péché, tu peux appeler le meilleur des intercesseurs dans ce pays. Il va prier pour toi jusqu'à baver. Tu lui donnes des mouchoirs, il va s'essuyer les lèvres. Tu ne seras pas exaucé. Dieu est un Dieu de principe. Et en tant que Dieu, sur la base de son alliance, il a déjà dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça là, il a dit.
Il n'a pas dit pas, point.
Point.
Il n'a pas dit pas,
point.
Il a dit
et
jamais quoi.
Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pourquoi ici, dans le texte avant, il dit, ta miséricorde nous sauve du jugement. Parce que dans les textes précédents, là, ils ont commencé par dire ce qu'ils ont fait. Dieu, nous là, même, on comprend nos situations. C'est ça la prière. Il faut être sincère. Pourquoi? Bon, tu as parlé d'aveuglement, parce que, quand quelqu'un naît de nouveau, ses yeux spirituels s'ouvrent, ses sens spirituels sont activés. Il voit, il entend des choses de Dieu. Quand il lit le livre de Dieu, la parole de Dieu, ça prend tout son sens. D'accord? C'est pour cela que quand Jésus a appelé Saul de Tarse sur la route de Damas, il lui a dit, le chapitre 26, verset 10, afin que tu leur ouvres les yeux. Quand tu auras ouvert les yeux, qu'est-ce qui va se passer? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Quand tu es dans les ténèbres, tes yeux s'ouvrent et tu vois la lumière quelque part, tu vas aller vers la lumière, n'est-ce pas? Ça c'est un. Deux, de la puissance de Satan à Dieu. Trois, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, parce qu'ils ont confessé ce péché. Quatre, l'héritage avec les sanctifiés. Maintenant, quand quelqu'un fait marche arrière, rétro-pédalage, il retourne maintenant, comme ses yeux avaient été ouverts et il est sorti des ténèbres, il va retourner dans les ténèbres. Et la puissance de Dieu, du diable maintenant, va l'engloutir à nouveau. Donc là, il est dit dans Galates par exemple, c'est des gens qui avaient commencé par l'Esprit de Dieu, après ils sont tombés dans le légalisme parce qu'il y a des juifs qui sont venus leur dire, écoutez, vous devez pratiquer la loi de Moïse. Et Paul leur dit, Galates chapitre 3, verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçues l'Esprit ou pas la prédication de la foi? C'est la question qu'il a posée. Autre chose, êtes-vous tellement dépourvu de sens au point qu'après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous souffert en vain? Vous êtes converti, on vous a persécuté. Et d'un seul coup, maintenant, tu commences par faire des choses qui relèvent d'un autre monde, ça. Il y a deux créations, l'ancienne création et la nouvelle création. La haine, là, c'est dans l'ancienne création. La vengeance, là, c'est dans l'ancienne création. La méchanceté, là, c'est dans l'ancienne création. C'est ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Et cela relève de l'ancienne création. Dans la nouvelle création, ceux qui fonctionnent dans cette création sont nés de l'esprit. Et ils portent le fruit de l'esprit. Donc tu vois ces deux catégories d'individus sur la face de la terre. Donc il dit maintenant, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc c'est important que nous comprenions ces choses. Tu as parlé d'aveuglement, j'ai dit, oui, la personne retourne dans les ténèbres. 1 Jean chapitre 2 verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Vous dites que vous êtes dans la lumière et vous avez de la haine, quelles que soient les raisons que vous avez. Et vous êtes tribaliste, et vous êtes raciste. Vous n'êtes pas chrétien, parce que c'est Dieu qui a créé toutes les races. D'ailleurs, pour votre gouverne, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Maintenant, ce que vous appelez les noirs, les bleus, tout ça là, c'est les variétés de la race humaine. Il n'y a qu'une seule race. C'est pour cela qu'il nous a donné une seule terre. Et nous sommes là-dessus, sur cette seule terre-là. Donc, quand quelqu'un quitte ce côté-ci de la planète et se trouve de l'autre côté, il est toujours chez lui parce que c'est un terrien, un habitant de la terre. Donc, si tu dis que tu es chrétien, ceux qui ne connaissent pas Jésus peuvent se permettre d'être tribalistes dans ce qu'ils font, d'être racistes. Mais si tu dis que tu es chrétien et que tu es raciste, tu n'es plus dans le royaume de Dieu. Tu es retourné dans l'ancienne création. D'accord? Donc, il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Pourquoi? Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Cette personne-là n'est plus conduite par l'esprit. Il n'est plus fils de Dieu. Et là, ils ont dit quelque part, la prière dans l'unité, c'est la prière d'ensemble. Et là, ils ont été clairs en disant, oui, tu écoutes nos prières prononcées dans l'unité. Vous savez qu'il y a des principes qui gouvernent la prière d'ensemble. Quand je prie seul, c'est autre chose. Mais quand nous nous retrouvons ensemble pour prier, il faut d'abord qu'entre nous, on soit au même diapason. L'Écriture a dit, si ton frère a quelque chose contre toi, il faut aller régler. Ou si tu as quelque chose contre ton frère, il faut aller régler. Ça, c'est les conditions préalables que Dieu a posées. Et avant que la prière ne soit exaucée. Donc si nous citons 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, nous nous rassemblons dans notre église et nous voulons prier, oui, que tout le monde prie, les gens sont en sueur, ceux qui ont des mouchoirs font sortir leur sueur, ceux qui, quand ils prient, ils marchent, certains se prosternent, et d'autres crient, d'autres se frappent la poitrine, ceux qui grommellent en priant, chacun a son mécanisme ou son attitude dans la prière. Nous faisons tout ça. Mais entre-temps, quelqu'un a quelque chose contre son frère, il n'a jamais pardonné. Cette prière est nulle et de nul effet. Maintenant, revenons dans la maison, dans le foyer. 1 Pierre chapitre 3 verset 7, Marie, montrez à votre égard la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, dans le couple, il faut apprendre à se pardonner. Il faut toujours être le premier à faire la démarche de la réconciliation. Frère, joue ta part. Ma sœur, toi aussi, si tu n'as pas raison, on a dit nulle part dans les Écritures qu'au nom de la galanterie, c'est les hommes qui viennent tout le temps vous demander pardon, même si vous avez tort. Il y a des femmes qui font ça. Elle a tort, mais elle ne veut pas, non, elle va attendre dans son coin jusqu'à ce que le monsieur, maintenant, vienne encore demander pardon. Tu ne gagnes pas, tu ne grandis pas spirituellement. Quand on grandit spirituellement, on est très, très, très aisé à demander pardon. Quand on reconnaît ce tort. Et quand on fait ça là, vous gagnez parce que quand il n'y a pas de crise au milieu de vous et qu'il y a la paix, quand vous priez, la prière est exponentielle dans ses effets. Mais si vous refusez, il n'y aura rien du tout. Et ça, n'oubliez pas que c'est l'apôtre Pierre qui l'écrit. Cela voudrait dire, vous savez qu'il est marié. Certainement qu'en tant que grand apôtre, qui a marché sur l'eau, qui a fait ceci, qui a vu Jésus-Christ transfigurer tout cela, un jour il a prié, mais il n'y a pas d'exaucement. Il a prié, maintenant il veut aller loin, l'Esprit dit, doucement, chef, il faut vous revoir la manière dont tu traites ta femme. Et il a compris. Et il a écrit
c'est
ça.
C'est là pour qu'il a écrit ses
voilà, ses maintenant, paroles. Mes sœurs aussi. Il y a des moments où vous priez, vous faites sortir le second pagne que vous... Vous mettez très bien avec force, là, comme les karatékas, et vous priez avec énergie et tout. Si tu ne respectes pas ton mari à la maison, tu peux parcourir tous les camps de prière et rester sur les montagnes, prier jusqu'à devenir comme un semi-squelette. Et Dieu ne va pas t'exaucer là. C'est un Dieu qui a des principes. Femmes, soyez soumises à vos maris.
C'est ce que la Bible dit.
Comme au Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, Marie, tu peux circuler dans tous les camps de prière, dans les églises. Tu entends qu'il y a croisade ici, tu fais tout ça là. Mais si tu n'aimes pas ta femme, toutes les prières que tu fais, tu peux semer dans les ministères, faire tout ce que tu veux. Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que son principe est là. Il faut y obéir pour être béni. C'est tout à fait simple. Il faut juste obéir à ce que Dieu a dit. Et vous avez l'exaucement. Donc, ces promesses sont oui, amen, en bien et en mal.
Très bien. Alors, en quelques mots, que retenir de cette émission?
Dieu est fidèle à son alliance, il est disposé à exaucer les prières. Quand ces prières sont faites dans l'humilité, conformément à la nouvelle alliance, sur la base du sang de Jésus-Christ, et Dieu ouvrira les cieux, et n'oubliez pas, une nouvelle saison commencera dans votre vie, en tant qu'individu, en tant que personne. Il y a la part de Dieu, et il y a aussi celle de l'homme. N'oubliez pas cela. Hein? J'ai pas, le temps est contre nous pour que je vous donne les témoignages. Quand les cieux s'ouvrent, c'est une nouvelle saison. Quand Dieu te parle à nouveau là, c'est une nouvelle saison. Frère, Dieu n'est pas statique. Ma soeur, Dieu, il n'est pas statique.
Très bien.
Et ton cas n'est pas un cas que Dieu ne peut pas régler. Si ça tarde là, pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'il y a de mon côté qui n'est pas en droite ligne avec sa parole? Ne te justifie pas. Ça fait des années que tu te justifies et ta situation ne change pas. Va à Dieu, humilie-toi et demande-lui pardon. Là, si tu dois aller demander pardon à des gens, fais-le. Quand tu auras fait ta part, tu peux aller devant Dieu avec courage et lui dire, Seigneur, j'ai fait ma part. Où est l'exaucement? Et il va t'exaucer.
Merci l'autre Laurent. Et nous finissons en vous relisant les paroles de la chanson « Ouvre le ciel ». Ouvre le ciel que ta gloire brille sur notre nation. Ouvre le ciel que ton royaume vienne maintenant. La strophe 1. Seigneur, tes promesses demeurent à jamais. Tu relèves ton peuple à genoux devant toi. Tu détournes ta colère du pays qui s'humilie et renonce à marcher dans ses propres voies. Le couplet 2, les paroles du couplet 2. Ta miséricorde nous sauve du jugement. Viens nous délivrer de notre aveuglement. Tu écoutes nos prières prononcées dans l'unité pour chasser notre ennemi de la contrée. Ouvre le ciel, que ta gloire brille sur notre nation. Ouvre le ciel et que ton royaume vienne maintenant. Nous vous laissons avec la chanson. Et si le Seigneur tardait à revenir, on va se retrouver la prochaine fois. Mais en attendant, je vous laisse avec Ouvre le ciel, interprété par Sylvain Frémont.